de la belle visite à Allo Showbiz. Ça fait quelques semaines qu'on essaie de l'avoir à l'émission et la neige nous en a empêché. Éric Charlin, salut.
Salut, ça va bien?
Ben oui, toi?
Ben oui, très content d'être ici finalement.
Ben oui, et Éric, l'album, ça a été long aussi, le processus de tout ça, parce qu'il y a eu la pandémie,
ouais.
Sortie d'album et lancement beaucoup plus tard.
Ouais.
À cause de tout ça, j'imagine.
Ça a été un long processus pour plusieurs raisons. Oui, la pandémie qui a joué là-dedans, là, écoute, tout a été arrêté. Donc, le processus a été plus long au niveau de la création puis de la production de l'album. Puis après, aussi, au niveau de la sortie, on a fait quelque chose d'un peu différent, c'est-à-dire qu'on a sorti l'album, puis on a fait le lancement un peu plus tard dans le but de... Il y avait plusieurs contraintes là, financières, mais aussi de planification, puis l'été arrivait. Donc, on s'est dit, on va faire une genre de rentrée montréalaise et lancement, un spectacle, au lieu de faire un petit 5 à 7 avec 4-5 chansons, on dit, on va faire un gros show, puis ça sera spectacle-lancement là, à l'automne.
T'as même fait ta cover dans ton lancement, ce qu'on fait pas, généralement, dans un lancement, mais t'as dit, je m'agarde, c'est mon show, je fais ce que je veux.
Exactement. En fait, je voulais que ça soit comme une célébration, une soirée avec les amis, avec les gens qui aiment ma musique, puis qu'on ait du plaisir, puis que ce soit pas la pression, parce que j'en ai fait des lancements dans le passé, puis il y a une pression, là, tu sais, de, bon, là, tu sors l'album, puis il y a des médias qui sont là, puis il y a des gens importants qui sont présents. Je voulais vraiment avoir pas de pression, puis juste avoir du fun, puis je me suis gâté avec un cover en plus, là, donc c'était bien le fun, c'était une belle soirée.
C'est le premier album complet.
Oui.
Parce qu'il y a eu des EP avant.
Ouais.
Là, c'est la première fois que tu fais l'aventure complète. Est-ce que c'est important d'arriver là ou plus maintenant?
Je pense que oui. Moi, j'étais un petit peu une vieille âme. Tu sais, j'aime
beaucoup. T'en as grandi avec ça?
Ouais. Aussi. Ben, j'aime ça écouter les albums au complet. Tu sais, je sais que parfois, les gens aujourd'hui, puis les jeunes sont plus au single, puis une chanson dans une playlist. Tu sais. Mais moi, j'aime bien quand un artiste sort un album, l'écouter au complet. Du début à la fin, je trouve que d'avoir les chansons dans un certain ordre, c'est parce que l'artiste l'a imaginé de cette façon-là. Puis j'ai pensé cet album-là comme ça, c'est-à-dire avec une introduction, un milieu, un début, une fin. Puis j'espère que les gens vont l'écouter de cette façon-là, parce que je pense que c'est une expérience qui est unique. Puis on l'a pensé vraiment comme un album complet, puis comme un voyage du début à la fin.
Éric, album personnel?
Ouais.
Vertigineux d'aller là?
Oui, il y a certaines phrases dans les chansons sur l'album que j'aurais pas pu écrire ça il y a une couple d'années quand j'ai sorti mes premiers EP. J'ai l'impression que là je me suis fait confiance, puis c'est sûr que ça fait peur un peu, mais en même temps j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'unique là-dedans, puis d'authentique, d'essayer de, tu sais, il y a des phrases là, des fois je les écris, je me dis, ah, c'est juste pour le démo, je vais changer ça pour l'album, puis finalement je l'ai fait écouter à des amis, à des musiciens, à mon réalisateur, puis finalement il était comme, non, on garde ça, tu sais, ah ouais, vous êtes sûr, ouais, on garde ça, c'est bon, tu sais. Fait que d'avoir la confiance aussi des autres, puis leur approbation, ça l'a fait que je me suis donné le droit d'écrire certaines choses, puis d'aller sur certains sujets.
Donc, qui n'auraient pas été là, sont arrivés là par hasard, à quelque part. S'il n'y avait pas eu ce regard extérieur-là, tu ne serais pas allé spontanément, nécessairement.
Ben, en fait, je suis allé spontanément, mais...
Avec une hésitation.
Exactement. Avec une retenue, je me disais, ah, ben, je vais changer ça, ou ça ira pas sur l'album, ou, tu sais. Puis finalement, c'est les autres qui m'ont convaincu de, non, c'est bon, tu sais, c'est bien que tu ailles dans ces zones-là, puis ça fait ce qui est unique avec ma musique, je pense.
Mais après, il faut les assumer sur scène.
Ouais. Ça, c'est autre chose.
C'est une chose en studio. Ça, c'est autre chose. On est tout seul avec l'équipe. Mais après, sur scène, c'est autre chose. Il y a un partage avec les gens. Puis il y a des gens qui vont se reconnaître aussi.
Ouais.
À travers tes histoires.
Ouais. Mais en fait, ce qui a été vraiment rassurant pour moi, c'est que dès les premières fois où je les ai faites sur scène, le rapport avec le public, puis l'impact que ça a eu a été très positif. Tu sais, j'ai eu des commentaires me disant que certaines chansons ou certaines phrases avaient touché les gens. Donc, ça m'a quand même rassuré que quand on va dans le très personnel, des fois un peu c'est intimidant justement, de sortir des choses très personnelles de soi, ben il y a quelque chose qui est universel, parce que même si c'est pas exactement la même situation, l'émotion qui est véhiculée par ça, ça touche les gens, parce qu'on va dans... Les gens sentent que c'est vrai puis que c'est intime.
Il y a eu tout un parcours de concours au départ. Est-ce que le chemin a été long pour se rendre à un premier album complet, tu trouves?
Le chemin a été long, mais en fait, ça a été salutaire, parce que, tu sais, si j'avais fait mon premier album il y a quelques années, je pense que ça n'aurait pas donné ce que ça donnait avec Maladresse. Donc, tout arrive pour une raison. Tu sais, j'ai l'impression que les concours ont été très formateurs. Juste les formations, mais la rencontre avec les autres, auteurs, compositeurs, interprètes, les rencontres avec le public. Oui, c'est sûr, c'est crève-cœur, les concours, parce qu'il y a toujours cette espèce de côté compétition qui est plus ou moins sain, je trouve. Mais en même temps, ça forge le caractère, ça forge aussi... On essaie de se rappeler qu'est-ce qui fait qu'on est nous, qu'est-ce qui est unique en nous, puis on essaie de renforcer ça plutôt que d'essayer de ressembler à d'autres gens, t'sais.
Dans le parcours, il y a eu Astafor.
Ouais.
Est-ce que ça représente quoi pour toi, ça? Évidemment, c'est un challenge d'écriture, c'est une résidence d'écriture là, pour les gens qui connaissent pas ça, puis c'est chapeauté par Francis Cabrel. Donc, il y a un côté intimidant déjà à ça.
Ouais.
Et après ça, c'est d'écrire en sachant que Francis Cabrel va entendre. Déjà, il y a quelque chose là-dedans.
Vraiment, tu sais, parce qu'on écrit des chansons toute la semaine, on est jumelés.
Avec
des gens qu'on connaît pas, donc en duo ou en trio. Donc avec des gens des fois qui ont une culture puis un background musical totalement différent, tu sais, j'ai écrit une toune avec un slammer, j'ai écrit une toune avec quelqu'un qui fait du jazz, donc ça sort vraiment de ta zone de confort, puis ça donne des mariages aussi éclectiques puis intéressants. Mais à la fin de tout ça, on joue les chansons devant des gens de Astafor, mais aussi Francis Cabrel qui est là, qui est assis là, tu le vois dans sa chaise, puis il écoute attentivement, donc il y a quelque chose d'un peu intimidant quand même, mais ça a été vraiment vraiment une expérience géniale, puis Monsieur Cabrel a été vraiment un coach, un mentor un peu, vraiment il a été super super gentil, super accueillant, et justement, il sait le processus, donc il sait c'est quoi écrire une chanson, il sait c'est quoi le premier jet, il sait c'est quoi retravailler la chanson. Donc, d'avoir des commentaires de ce monsieur-là, puis quelqu'un qui a une carrière exceptionnelle, ça a été vraiment, vraiment, vraiment une belle expérience.
Est-ce qu'on part en résidence d'écriture en voulant apprendre et en voulant se teinter des autres? Parce qu'évidemment, c'est pas, tu l'as dit, un slammer, c'est pas nécessairement ton bagage. Mais après, on est teinté de ces univers-là, puis on apprend à côtoyer ces univers-là aussi.
On apprend plein de choses des gens qui, justement, viennent de milieux différents, d'influences différentes. Justement, tu sais, moi, justement, de l'expérience avec le slammer, j'ai appris l'importance du rythme, des mots, des sonorités des mots. Il y a des choses que j'ai intégrées dans mes chansons, dans mon écriture, à petite ou grande échelle, là, d'avoir appris de ces gens-là, de leur manière de créer aussi. Ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que on va vraiment dans le... C'est comme si on rentrait dans un restaurant pour aller dans les cuisines, là, puis on voyait c'est quoi la recette de chaque cuisinier, de chaque chef, tu sais. Donc, après ça, on peut prendre des petits ingrédients. Ah, lui utilise telle épice ou lui utilise telle sauce. Ah, OK, c'est intéressant. Puis on peut intégrer ça à notre univers, à notre façon de créer. Donc, c'était surtout ça qui était vraiment... intéressant pour moi, là.
Est-ce que pendant la création de Maladresse, est-ce que ça s'est fait essentiellement dans la pandémie? Est-ce qu'il a été écrit? Parce que tu abordes des sujets qui pourraient être liés à la pandémie.
Ouais.
Est-ce que ça a été teinté de ça ou c'était déjà fait avant?
Ben, il y a, oui, quelques chansons qui ont été faites pendant la pandémie, mais il y a quelques chansons, dont une chanson qui s'appelle Couvre-feu.
Ben oui.
Qui est vraiment comme...
ça vraiment pourrait drôle. Presque être une cible pandémique. Là.
C'est incroyable. Elle a été écrite en 2019, donc un peu avant la pandémie. Et puis quand est arrivée la pandémie, est arrivé le couvre-feu, etc. Je me suis dit, ben là, tout le monde va penser que j'ai écrit cette chanson-là pour le couvre-feu, tu sais. Mais après, j'ai trouvé que c'était comme un... c'est incroyable d'avoir écrit ces chansons-là, puis après ça, de les sortir dans ce contexte-là, je trouvais, ben, mon Dieu, les chansons prennent une autre dimension, en fait. Puis les chansons parlaient beaucoup de solitude aussi, puis d'isolement, puis de... donc, la pandémie
se
prêtait bien à ça, donc ça a été vraiment intéressant de voir l'espèce de mélange de mon écriture qui venait de mon expérience personnelle, après ça, de les envoyer dans le monde, dans... la situation qu'on était tous dedans, là. Donc, ouais.
Et donc qui connecte peut-être à plus de gens qui sont passés à peu près tous par là pendant cette période-là.
Mais je pense que oui, parce que je pense que tout le monde a expérimenté des émotions que peut-être on n'avait jamais expérimentées, ouais, avant, justement de solitude, d'isolement, d'anxiété, d'inquiétude. Donc j'ai l'impression que les chansons ont peut-être été reçues d'une manière différente que si je les avais sortis en 2019, alors que tout allait bien.
Il y a aussi l'amour inclusif.
Ouais.
Pourquoi c'est important d'aller dans cette zone-là, dans cette thématique-là?
Ben, c'est important parce que ça fait partie de moi. J'ai toujours pensé comme ça. Ça a toujours été pour moi une aberration que des gens disent à d'autres gens qui doivent aimer telle ou telle personne ou qui ne peuvent pas aimer telle ou telle personne. J'ai toujours dit qu'on choisissait pas qui on aimait, peu importe la couleur de peau, le sexe, l'orientation sexuelle. Puis j'ai toujours été un petit peu... au début, je savais pas trop si je voulais aller dans cette direction-là, dans mon art, si je voulais en parler, si je voulais l'intégrer. Puis comme ça fait partie de moi, je me suis dit, si je me livre, j'ai pas le choix de me livrer en entier. Mm-hmm. Puis ça fait partie de moi. C'est pas le thème principal, mais ça fait partie des chansons. Puis en fait, je suis très fier que ça touche. C'est une thématique qui touche mon art, là.
Mais en même temps, il y a un désir de représentation. Quand on écoute des chansons qui abordent le thème de l'amour, souvent il est très typé, ce thème-là en musique.
Ouais.
Donc, on se sent pas représenté,
j'imagine,
dans les chansons.
Ouais. Oui, oui. Ben, en fait, c'est drôle parce que parfois, moi, j'écris en me disant, je vais écrire le genre de chansons que j'aimerais, moi, entendre à la radio ou entendre dans la vie de tous les jours. Puis, c'est vrai que des chansons d'amour entre deux hommes, ou on en entend moins, de plus en plus de ces dernières années, mais disons que la représentation, quand j'ai grandi, quand j'étais adolescent, c'était nul. J'avais personne de la communauté LGBTQ+, à regarder et à dire hey, « c'est possible, je peux faire ça ». Donc, pour moi, c'était important de me dire ben, « quand moi je crée puis je fais de l'art », d'intégrer ça parce que ça fait partie de moi. Puis si ça peut inspirer des gens ou si ça peut juste aider certaines personnes d'entendre ça dans des chansons, ben je me dis que c'est mission accomplie, en fait.
Et de, comme on l'a dit, après ça, de se reconnaître, que les gens se reconnaissent, que toi, tu pouvais pas plus jeune qu'une jeune génération, ou pas jeune, pas nécessairement, se reconnaissent en entendant la musique.
Exactement. Moi, j'ai eu des commentaires des fois de monsieur de 65 ans à Alma qui me dit... ça me fait du bien que tu parles de ça dans tes chansons, comme d'un petit gars de 16 ans dans un autre endroit, en région éloignée, qui me disent hey, ça me fait du bien aussi, ça me parle, tu sais. Puis ça, ces petits commentaires-là, je me dis c'est pour ça que je fais de la musique, en fait. C'est ça l'essence de mon travail, en fait.
Il est sorti en 2021, l'album. Est-ce qu'il devait sortir avant, puis la pandémie a comme tout changé?
Oui, il devait sortir un peu avant.
Okay.
Puis quand la pandémie est arrivée, ça a mis un petit peu le frein sur ça. Mais ça a été bien parce que ça m'a permis d'avoir un peu de recul aussi par rapport aux chansons. Comme je disais, il y en a certaines qui avaient été écrites en 2019.
Ouais.
Donc le fait d'avoir un peu de recul sur les chansons, ça permet d'avoir une meilleure idée générale des thématiques. Parce que des fois, on écrit une chanson, on est comme hey, « c'est la meilleure chose que j'ai fait », puis on l'écoute trois mois plus tard, on est comme « ouais, je sais pas », tu sais. Fait que des fois, le recul, ça permet de confirmer certains choix ou d'infirmer d'autres, puis de dire « ah, on pourrait peut-être essayer d'autres choses ». Donc, j'ai l'impression que ça a été une bonne chose, en fait, pour la création de l'album.
Mais donc, es-tu retourné travailler des chansons, changer des trucs pendant cette pause-là, de dire « ok, ben, finalement, ça colle peut-être plus à ce que j'ai envie de faire là ».
Ouais. En fait, c'est sûr que l'élan était quand même
ouais,
le
pas
même,
tout changé,
là, mais il y a des choses qu'on a changées, justement, avec Maxime, qui a co-réalisé l'album avec moi. On a travaillé pendant cette période-là où on travaillait pas.
Ouais.
Il n'y avait pas de spectacle, il n'y avait rien, donc on s'est rencontrés souvent, puis on a pris peut-être plus de temps qu'on n'aurait peut-être pas eu s'il n'y avait pas eu cette fameuse pandémie. Donc, je pense que ça a été bénéfique pour l'album, en fait.
C'est important la co-réalisation. Il y a ce recul-là aussi, on en parlait tout à l'heure. Là. D'avoir quelqu'un avec toi, ça permet qu'il y ait quelqu'un qui a un recul. C'est pas lui qui a travaillé les chansons, donc il y a autre chose. Là.
Exact. Puis comme je fais, moi, paroles, musique et aussi arrangement, parce que souvent, quand je fais mes petits démos chez moi, ben, je vais programmer la batterie.
C'est prêt. C'est presque prêt. Ouais.
Exactement. Tu sais, c'est assez complet, mes démos. Là. Donc, j'ai pas trop de recul. Donc, c'est important pour moi d'avoir quelqu'un qui a une oreille extérieure, un œil extérieur qui peut me dire, juste confirmer certaines choses que je doute ou me faire douter ou m'amener ailleurs sur certaines choses que moi je me dis, ah, c'est comme ça. Puis justement, sur l'album, il y a plein de chansons où il y a des petits trucs que Maxime a amené que ça, oups, ça a changé ma vision. Puis, ah, OK, mais on se lance la balle un peu. Ça, moi, je rebondis sur ce qu'il me dit. Après, ah, lui, il rebondit sur ce que moi, je dis ou ce que je fais. Donc, c'est vraiment... J'aime la collaboration au niveau de la réalisation. Ouais.
Mais donc, faut être ouvert à ça. Parce que tu pourrais dire, c'est mes bébés, je les ai montés d'un bout à l'autre et ça reste comme ça.
Ouais. Ben, en fait, sur mes deux premiers EP, c'était beaucoup moi qui avait les idées de réalisation. Puis je trouvais, justement sur cet album-là, je me suis dit, je vais essayer de m'ouvrir, puis je vais essayer. J'avais envie de travailler avec quelqu'un d'autre. J'avais envie que ça sonne différent parce que c'est le fun de faire tout soi-même, là, mais ça n'a pas la même saveur que quand on partage avec quelqu'un puis qu'on met nos influences en commun puis qu'on va chercher quelque chose d'un peu plus grand que le travail d'une seule personne. Donc, même chose pour les musiciens, je les ai laissés. Sur mes deux premiers EP, les partitions étaient assez écrites. Puis c'était plutôt de l'interprétation puis de la performance. Puis là, j'ai essayé de leur laisser un peu plus de liberté sur créer. Moi, j'ai enregistré ça, mais vous êtes libre de changer. Puis ça a donné vraiment des résultats intéressants. Puis je pense que je vais continuer dans cette direction-là pour le futur.
Mais de toute façon, sur scène, après, ça aurait été ça de toute façon. Les musiciens se seraient amusés avec ce qui est là.
Ouais, exactement. Puis c'est un peu aussi ce qui m'a amené à penser comme ça pour cet album-là. C'est que d'avoir tourné pour les deux albums d'avant, je me suis rendu compte qu'une fois rendu sur scène, les chansons prenaient une autre direction ou une autre image, tu sais. Puis je me disais, ça serait intéressant de faire le travail inverse, c'est-à-dire d'essayer d'impliquer le band, les musiciens, avant la sortie de l'album, donc avant l'enregistrement, plutôt que après seulement lors de la tournée. Là.
L'année prochaine, ça va être les 10 ans de ton EP, ton premier EP. Ça te fait quoi de voir ça, déjà?
C'est vrai, 10 ans, incroyable.
2014, si j'ai bien calculé.
Ah oui, ouais. C'est ça. Non. En fait, ça me fait juste remarquer le chemin parcouru. Puis c'est drôle, des fois, je réécoute un peu cet album-là quand ça passe ou je sais pas, un ami me fait écouter, puis je fais comme oh ok, on est vraiment tu sais, il y a du chemin qui a été parcouru depuis ça. Je vois encore le petit gars de 23 ans qui écrit ses tunes, puis là je suis rendu dans la trentaine, la mi-trentaine, fait que c'est intéressant de voir le chemin parcouru, puis ça me donne juste comme de l'espoir puis de l'excitation pour le futur. Puis je me dis, ben dans 10 ans je vais peut-être regarder sur cet album-là Maladresse et avoir le même impact, le même avis. Là.
En même temps, un album, c'est une espèce de polaroid. C'est une photo d'un moment pris dans le temps, ancré. Donc, le gars dans la trentaine regarde ce que le gars dans la vingtaine pensait sans savoir ce qu'il allait vivre pendant ces 10 années-là.
Exactement. C'est vraiment... C'est un album, je trouve, c'est encore mieux qu'un album photo. C'est quand j'écoute les chansons, je revois quand on était dans le studio en train d'enregistrer, avec qui je l'ai fait. Maladresse, ça va rester toujours gravé dans ma mémoire parce qu'on est parti une semaine dans un studio dans la Nodière, sous le bord d'un lac. Puis on avait tous nos masques parce que c'était la pandémie. Puis tu sais, ça, là, ça va. Puis les moments qu'on a partagés, là, à prendre le petit déjeuner ensemble, puis aller en studio, puis après ça, ben prendre un petit verre le soir, puis se partager des idées, puis on va enregistrer quelque chose, même s'il est rendu 11h, minuit, le soir. Ça a été vraiment une expérience exceptionnelle. Puis quand je réécoute les chansons, puis peut-être dans 10 ans, ça va être la même chose, je vais repenser à ces moments-là, puis je suis sûr que ça va rester dans ma gravée, dans ma mémoire, en fait, très longtemps.
Et là, il y a l'Europe pour toi. Là, c'est là, c'est au début du mois de mars.
Ouais.
Plein de villes en Europe. C'est arrivé comment, ça?
En fait, j'ai été sélectionné pour faire ça.
T'es le seul, d'ailleurs, non?
Ouais,
d'ici.
Le seul Canadien québécois à être sélectionné pour ça. Donc, je m'en vais pour une dizaine de jours faire un peu comme à Stafford, un genre de stage d'écriture. Cependant, là, c'est vraiment, on écrit des chansons, on est 8 auteurs-compositeurs-interprètes, donc 7 qui sont français, puis moi qui est québécois. On va écrire des chansons pendant 3 jours, je pense. On monte un spectacle, puis ensuite, on part, puis on fait 4 dates. On fait un spectacle avec les chansons qu'on a écrites la veille, puis l'avant-veille. On invite le public à venir voir quelque chose d'hyper frais, d'hyper...
Qui a jamais existé.
Qui a jamais existé, qui n'existait pas la semaine dernière, puis qui va exister. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, il y a des auteurs-compositeurs assez établis là-bas, dont Renan Luce, Alexis Hachka, qui font partie de la cohorte avec moi. Donc, je pense que le niveau va être quand même assez relevé. J'ai bien hâte de voir ça. Puis ensuite, je vais aller aussi faire un petit show à Paris avec des amis où là, on va vraiment faire nos compositions. Donc, c'est vraiment un voyage, encore une fois, de création, de découverte. Puis qui sait, je vais peut-être revenir avec des chansons pour un prochain album.
Mais il y a une pression immense parce que de dire, comme à Stafford, de dire on va écrire et présenter, mais devant les gens qui sont là de Stafford, là, c'est on monte un show. Donc, il faut ouais. non seulement que ça soit bon, mais il faut que ce soit assez bon pour être un show,
ouais.
pour divertir les gens qui viennent, qui se déplacent pour voir ça.
Exactement.
Mais qui comprennent aussi dans quoi ils s'embarquent quand oui. ils achètent des billets.
Ouais, exactement. Mais en même temps, je trouve que ce qui est drôle, c'est que quand on a... Le cerveau est drôle. Le cerveau humain, quand on met des contraintes puis on met de la pression, on dirait qu'on trouve toujours la façon de justement arriver. Ouais. Si on se dit, bon, on crée, puis il n'y a pas de finalité.
Il n'y a pas de temps.
Il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de temps.
Mais là, la toune, elle dort longtemps. Là.
Exactement. Ou on la finira la semaine prochaine, ou on la finira le mois prochain. Ou, donc là, quand on met une espèce de pression de créer...
Il faut arriver à quelque chose.
Il faut arriver à quelque chose. On dirait que là, tout le monde, les cerveaux de tout le monde se mettent en mode solution, puis on essaie de trouver des choses pour qu'on arrive avec un show au bout de 3 jours. Là. C'est quand même 3 jours pour créer un show là, d'une heure et quart, 1h30. C'est... En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Là. Ça va être la première fois que je fais ça, mais j'ai bien hâte.
Et c'est l'occasion de tester ce marché-là aussi. J'imagine que ce désir-là, quand on chante et qu'on écrit en français, d'aller explorer le marché européen.
Vraiment. Ben oui. Puis j'ai toujours eu... je suis allé quelques fois dans le passé, ben justement, à Stafford, puis j'avais fait d'autres concerts un peu en 2013-2014. J'ai toujours eu une belle réception de la part du public européen. Donc j'ai hâte de voir aussi là, avec mes nouvelles chansons justement de l'album Maladresse, d'aller voir aussi quelle est la réaction. Puis j'ai hâte de voir aussi d'être le seul Québécois dans ce stage d'écriture-là, d'amener cette couleur-là un peu plus québécoise dans la musique, dans les textes, dans l'accent aussi un peu quand je chante. J'ai vraiment hâte de voir la réaction. J'ai hâte de voir... puis ça fait un bout de temps que je peux aller. Ça fait 5 ans que je peux aller en France. Donc, c'est... Ouais, j'ai hâte, là. Luc, tu me donnes envie de, tu me donnes envie de partir tout de suite, là.
Est-ce qu'au retour, c'est les shows ici? Est-ce que c'est le projet d'aller présenter ce disque-là un petit peu partout?
Ouais, en fait, là, on est dans le booking de cet été. Donc, les festivals, les shows extérieurs, etc. Donc, on va sortir quelques dates prochainement.
Est-ce que les premiers albums vont être dans ce show-là ou tu les as mis de côté?
Non, il y a des chansons qui viennent du premier et du deuxième EP. Donc, je les revisite un peu à la sauce Maladresse. Mais oui, justement, quand on a fait le lancement cet automne, on a fait des plus vieilles chansons qu'on a changé un peu l'habillage. Puis c'est vraiment intéressant. Je trouve que c'est le fun de voir justement les chansons qui ont été écrites il y a 10 ans, il y a 5 ans, qui tiennent encore la route puis qui restent pertinentes dans ma démarche. Donc, ouais.
Si les gens veulent te suivre, il y a tous les détails sur le web, tout est là.
Bien sûr, Facebook, Instagram, mon site web, on met toutes les dates puis les sorties. Puis bien sûr, les gens peuvent écouter l'album sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. L'album Maladresse d'Éric Charlat.
Éric, merci d'avoir été là.
Merci de m'avoir accueilli.
Merci beaucoup.